Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue à l'économie en direct sur IDFM Radio, votre radio valdoisienne en Ile-de-France, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Ile-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Innovation et stratégie dans les nouveaux modèles économiques, c'est le titre de cette émission dans laquelle nous tenterons de relier les différentes expériences de mes invités tout en explorant leurs différentes stratégies entrepreneuriales. Et pour en parler, je vais accueillir au téléphone Céline Bertin. Bonjour Céline.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Merci d'avoir pu nous rejoindre via le téléphone. Céline, vous êtes la responsable marketing et communication de CY Transfer, notre précieux contact pour tous les rendez-vous avec IDFM Radio. Et avec nous ce matin pour nous parler d'un événement majeur qui va avoir lieu le 28 novembre 2024 et dont vous nous donnerez le plus de détails possible dans quelques instants.
Exact.
Bien présent dans notre studio, Olivier Fourcadet. Bonjour Olivier.
Bonjour Jacqueline, bonjour Francky, bonjour à tous les auditeurs.
Oui, il faut bien vous approcher du micro, Olivier. Merci pour votre présence dans nos studios. Professeur de stratégie et co-titulaire de la chaire Food de l'ESSEC, chaire partenariale avec les entreprises Metro, Groupe Bell et McCormick. Voilà, vous êtes responsable du centre de transfert des technologies et des savoirs. Et je m'arrête là parce que vous avez d'autres titres, mais vous m'avez dit qu'il fallait pas les citer. Et donc, avec nous ce matin pour nous dévoiler cette stratégie partenariale mise au service de CYU dans le cadre de leur PUI. À vos côtés, Vanessa Schweitzer. Bonjour Vanessa.
Bonjour Jacqueline.
Ravie de vous accueillir à nouveau sur IDFM Radio. Fondatrice du parc de loisirs Abracada Park, vous êtes une chef d'entreprise hors norme et avec nous aujourd'hui pour nous raconter ce qui vous a inspiré pour la création de ce parc et toutes les étapes clés que vous vivez depuis. Et à vos côtés, Philippe Bonne. Bonjour Philippe.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Fondateur et dirigeant de Midrange Group, une entreprise basée à Saint-Ouen-l'Aumône spécialisée dans l'intégration des solutions IT, véritable outil de performance et de rentabilité pour ses clients, auquel vous avez décidé d'ajouter une dimension formation et dont nous allons tout savoir dans quelques instants. Bienvenue à vous dans l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission disponible en podcast un peu plus tard sur le site idfm98.fr. Avant de vous donner la parole, j'ai un communiqué de presse à vous lire puisque le mois de septembre, c'est le mois de septembre en or, mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. Et en partenariat avec les villes de Montmorency et d'Oeil-la-Barre, il y a, mais aussi Gustave Roussy, du 1er au 30 décembre 2024, se tient une exposition entre Montmorency et d'Oeil-la-Barre précisément. Un parcours expo extraordinaire. Élise Princesse Courageuse organise donc une exposition afin de sensibiliser le plus grand nombre à ce que vivent les enfants et les familles souffrant de cancer pédiatrique et d'interpeller sur les besoins et les défis à relever. L'exposition du paraître à l'être dévoile dans différents lieux de la ville des portraits, des citations et des arbres de vie réalisés par les enfants des écoles et grâce à de nombreux témoignages. Un café friperie solidaire pour clôturer ce mois d'engagement aura lieu à la salle des fêtes le week-end du 28 et 29 septembre, c'est-à-dire ce week-end, autour d'ateliers. Friperie, upcycling, shooting. Pour faire un don, vous pouvez aller sur le site de Élise Princesse Courageuse et parce que voilà, c'est une association formidable et ils ont besoin vraiment d'être aidés. Et pour tout savoir, les fonds récoltés sont reversés aux hôpitaux de proximité pour la recherche sur le cancer de l'enfant, l'amélioration du parcours de soins et pour la réalisation de vêtements adaptés. Merci pour vos dons.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et donc ce matin une émission consacrée à l'innovation et la stratégie entrepreneuriale. Et donc je me tourne tout de suite vers vous, Olivier Fourcadet, responsable donc du Centre de transfert des technologies et du savoir business, finance et management, partenaire de CY et de l'ESSEC Business School. Je vais quand même peut-être dire que vous êtes un des membres du cercle des experts de BPI France. C'est important pour ce dont nous allons parler. Alors, rappelez-nous déjà peut-être un petit peu votre parcours, Olivier.
Alors, j'ai commencé dans la biologie. Je suis vétérinaire de formation.
D'accord.
Très rapidement, je me suis aperçu que j'avais un problème auditif qui m'empêchait éventuellement de faire ce que l'on faisait à l'époque, utiliser un stéthoscope pour entendre le bruit du cœur ou des poumons.
Parlez bien en face, même si vous ne me regardez pas.
J'ai pensé tout simplement à me réorienter.
Oui.
Et je me suis orienté vers une discipline qui s'appelle l'épidémiologie des maladies contagieuses. Alors à l'école vétérinaire, c'est un pôle important. Et puis on a un ancien qui nous a montré la voie, qui s'appelle Louis Pasteur, même s'il n'est pas vétérinaire, mais il opérait à l'école vétérinaire. Et quand on regarde ce que l'on dit de Louis Pasteur, on a un chercheur innovateur, puisqu'il a développé des solutions bien réelles pour l'agriculture. Et donc, on a cette inspiration très naturelle qui nous vient en nous disant, pourrions-nous mettre la science au service de la société, et en l'occurrence, éviter que des maladies contagieuses se transmettre entre les animaux, c'est la protection des cheptels. Puis on a le concept de une santé, one health en anglais, et les zoonoses qui sont les maladies qui sont transmissibles des animaux à l'homme, comme la tuberculose par exemple, qui a été ma spécialité.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et naturellement, quand on veut passer à l'action, il faut qu'on se donne les moyens de passer à l'action. Donc en tant que chercheur, on fait un certain nombre de choses. Et j'ai éprouvé le sentiment que je ne contribuais pas totalement aux bonnes réalisations. Et donc j'ai souhaité passer à l'acte en quelque sorte, c'est-à-dire éventuellement conduire le déploiement d'une nouvelle stratégie de lutte contre la tuberculose. Et je me suis trouvé à l'époque totalement incompétent, ce qui m'a amené à rejoindre une école qui est l'ESSEC pour apprendre à gérer un projet, apprendre à communiquer auprès des parties prenantes qui sont les agriculteurs, les pouvoirs publics. Et faire aussi un budget.
Oui.
Voilà. Donc il y avait beaucoup de choses à apprendre.
Tout à apprendre.
Et j'ai trouvé à l'ESSEC une école où je pouvais à la fois réaliser mon projet professionnel et peut-être développer aussi des compétences. Et je suis resté à l'ESSEC comme professeur.
Vous avez trouvé votre place et vous y êtes très bien.
J'ai trouvé mon bonheur.
Bon, avec toute l'humilité dont vous faites preuve, merci Olivier. Céline, je m'adresse à vous. Vous pouvez nous expliquer cette rencontre avec Olivier ?
Oui, alors Olivier Fourcadet travaille à l'ESSEC et l'ESSEC est complètement en lien avec CY Sergi Paris Université et fait partie notamment des acteurs du pôle universitaire d'innovation pour lequel nous avons été labellisés en juillet 2023 maintenant.
Oui.
Du coup, pour rappel rapidement, en fait, le pôle universitaire d'innovation, c'est un label d'excellence qui est financé dans le cadre du programme France 2030. Et les PUI, en fait, à l'échelle, donc PUI, c'est pôle universitaire d'innovation, pardon, ils ont pour objectif d'accroître l'efficacité des dispositifs de soutien à l'innovation dans toutes leurs dimensions, depuis la recherche partenariale jusqu'à la création d'entreprises, et ainsi faciliter les transformations des technologies et savoirs en innovation, notamment à travers des startups deep tech.
Oui.
Voilà. Les tech et CY, c'est une histoire
ancienne,
c'est une histoire
depuis
toujours. Voilà. L'ESSEC fait partie aussi de CY Alliance et du coup, tout naturellement, ils ont fait partie de ce projet de répondre à cet appel à projet du PUI et ils font partie de l'aventure avec nous depuis le début. Voilà, je ne sais pas si Olivier, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, mais globalement, c'est un peu ça.
Oui, puis à titre personnel, je suis fier de contribuer à cette aventure. Et de travailler avec aussi des collègues universitaires dont je fais tous les jours la connaissance. Et donc c'est vraiment un plaisir de contribuer en étant au service des entreprises, du territoire, des chercheurs. C'est un moment passionnant.
Bon, très bien. Ben on sent en effet que vous en parlez avec beaucoup de presque de l'émotion.
Du coup, avec Olivier, on a déjà été pas mal en contact puisqu'on a organisé ensemble, du coup, dans le cadre du PUI, également en juin dernier, la soirée des T-Rex.
Ah oui.
Pour laquelle on a été en tête de pont tous les deux et du coup qui a eu un très beau résultat. C'était qu'on était toujours dans cette initiative de montrer, parce que l'objectif du PUI, c'est vraiment de booster et mettre en avant tout ce qui est la collaboration publique-privée et amener encore plus les entreprises à travailler avec la recherche publique. Et du coup, le dispositif CIREX, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard puisqu'il a évolué et aujourd'hui, on l'appelle le dispositif FIRST.
Oui.
On fait partie des outils de financement qui peuvent être octroyés et activés par des entreprises qui veulent travailler avec la recherche publique.
C'est ça, le but vraiment, c'est de mettre en relation la recherche académique dans le processus d'innovation de l'entreprise, hein, je crois.
C'est ça. Exactement.
On va pas tout de suite parler des assises, Céline. Je propose de poser quelques questions à Olivier sur, Olivier, comment définissez-vous ces objectifs stratégiques pour les partenariats?
D'abord, il y a tout un travail avec des partenaires.
Oui.
Le premier travail, c'est de définir justement quels sont les objectifs du partenariat. Mmh. Alors, je reprends ma casquette de professeur de stratégie. La première question qu'on se pose, pourquoi faire un partenariat? Ensuite, donc, on va identifier des partenaires. L'idée de partenariat, c'est qu'il y a un apport réciproque. On se complète, on se complémente. C'est pas une accumulation des mêmes types de savoirs. Donc, on va plutôt aller chercher des personnes qui sont différentes de nous, pour pouvoir, ensemble, établir des objectifs et ensuite collaborer pour réaliser ces objectifs. Donc c'est une question d'identifier les personnes avec lesquelles nous allons avoir le maximum de capacité à les impacter positivement, des entreprises. Et c'est le début en quelque sorte, hein, cette rencontre, c'est le début d'une collaboration qui peut durer une trentaine d'années. Hein.
C'est ça, quand on vous rencontre, on ne vous quitte plus.
Nous adorerions que tout se passe comme ça. Et on a des partenaires, on les accompagne pendant une partie. Des partenaires, quand je parle de partenaires, ce sont des entreprises.
Oui, bien sûr.
Hein, on les accompagne, elles ont des besoins. Le partenariat va durer 2-3 ans, les besoins sont satisfaits. On se retrouvera peut-être quelques années plus tard. Et puis on a des partenaires dont les besoins ne cessent d'évoluer et pour lesquels nous avons... à l'ESSEC, mais en relation aussi avec les écoles de CY Alliance, la possibilité d'apporter des réponses pertinentes. Le mot pertinent est extrêmement important pour nous. Il n'est pas question de perdre son temps. Donc il faut véritablement s'assurer que ça soit quelque chose qui délivre finalement une performance aux entreprises.
Oui, il faut que ce soit absolument un contrat gagnant-gagnant.
Tout à fait. Alors, l'idée de partenariat aussi, c'est quand on connaît une entreprise, en fait, on ne connaît pas une entreprise, on connaît surtout des personnes, des managers qui travaillent dans une entreprise. Et donc,
c'est l'humain avant tout.
Oui, c'est l'humain avant tout, mais c'est un petit peu comme une relation amoureuse. Au début, on se cherche, on devient amoureux, et puis on apprend à se connaître, et on apprend aussi en se connaissant mieux, on apprend à mieux comprendre les signaux qui nous sont envoyés, décryptés. Puis quand on est avec un partenaire, on a à cœur de suivre aussi son évolution pour anticiper ce que l'on pourrait lui apporter dans 3 ans, dans 4 ans. On essaie d'anticiper. La stratégie nous amène souvent à nous projeter dans le futur pour être pertinent aujourd'hui et accompagner l'entreprise dans les tournants qu'elle serait amenée à prendre demain.
Demain, oui, très bien, très bien. Merci beaucoup, Olivier. Olivier, je propose qu'on fasse une courte pause et puis on reprend cet entretien passionnant dans quelques instants. À tout de suite.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Céline, Olivier Fourcadet nous a bien insisté sur la cohérence et la pertinence de créer ces partenariats. Vous-même, entre CY et puis les sexes, vous êtes donc en accord parfait.
En tout cas, on est complémentaires sur ce qu'on souhaite apporter et notamment à l'échelle du PLUI, les SEC apportent sa brique pour le programme global. Du coup, oui, je pense qu'on est complètement dans de la pertinence. L'objectif étant d'apporter des solutions les plus précises aux partenaires avec lesquels on va s'engager. Voilà, je sais pas si je peux refaire un petit point rapide sur le PUI CY Transfer, en fait, ce qu'on souhaite apporter. L'ambition du PUI CY Transfer, c'est vraiment d'accélérer les dynamiques de nos territoires et de l'écosystème, pour qu'ils deviennent un écosystème unifié. Ça, c'est l'ambition de Place to Be pour nos quatre cibles qui sont les chercheurs, les étudiants, les entreprises et les apporteurs de fonds. Et à ce jour, en fait, on a près d'une soixantaine de partenaires qui ont rejoint le projet en tant que partenaire du PUI. Voilà. Et l'ambition, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'accélérer les dynamiques d'innovation dans l'écosystème en s'appuyant sur un écosystème d'innovation qui repose sur des structures de recherche d'excellence dont CY propose avec ses laboratoires. Et demain, on a, à partir de janvier, l'USPN, donc l'Université Sorbonne Paris-Nord, qui va intégrer le PUI en tant que membre fondateur aux côtés, du coup, de CYU, la Sater Gamio, le CNRS, le CEREMA. Voilà, du coup, c'est un peu ce qu'on souhaite proposer.
Très bien. Voilà. Oui, parce que j'avais reçu Olivier Romain il y a à peu près un an pour justement nous parler de ce PUI auquel vous avez été éligible. Et Olivier nous expliquait bien que il suffit pas d'être éligible, il faut le faire vivre ce PUI. Et puis vous allez avoir des étapes à franchir pour conserver cette éligibilité.
Ça, là, tout l'enjeu pour nous, c'est vraiment de réussir à coordonner l'ensemble des partenaires et des membres fondateurs. Et justement, à cet effet, par exemple, on a organisé notre deuxième journée des partenaires du PUI. On avait organisé la première en janvier pour lancer le projet. Et hier, c'était mardi, on a invité l'ensemble des partenaires à faire un peu un point d'étape de la feuille de route pour montrer tout ce qui avait été fait depuis l'accord en fait de ce label. Et finalement, en un an, on a déjà pas mal avancé, puisque l'enjeu, c'était vraiment de réussir à mettre tout le monde un peu en ligne de marche et que tout le monde puisse s'investir et porter sa contribution et trouver aussi ses intérêts, le projet. Tout en ayant quand même des objectifs très concrets de montrer ce qu'on fait. Je viens notamment, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais de parler par exemple des
assises du projet des assises de l'innovation. C'est le moment. Voilà.
c'est un des objectifs qui est fixé, qu'on s'est fixé dans la feuille de route sur la première année, c'est de créer les premières assises de l'innovation du PUI CY Transfer, avec un objectif du coup qui est clair, on veut montrer le rayonnement de l'écosystème d'innovation et la renaissance des initiatives des acteurs de l'innovation dans l'écosystème du PUI en mode 360 degrés. Du coup, ça, c'est notre projet. Le projet est lancé, on a la date qui est fixée, ça sera le 28 novembre. On a le lieu, ça sera à la station Numix à Sarcelles, ça sera le premier événement de la station Numix qui rouvre ses portes, qui a été créé. Et aujourd'hui, on en est sur la partie finalisation de la programmation et on cherche à financer l'ensemble de ce projet et du coup, on recherche encore des partenaires pour nous rejoindre dans l'aventure.
C'est ça, financement et ressources pour pour pouvoir avoir une des assises à la hauteur de ce que vous espérez, bien sûr. Et moi, j'ajoute que vous nous avez proposé de venir couvrir l'événement, donc on sera partenaire et pour le plus grand bonheur d'IDFM Radio. Donc un grand merci à toute l'équipe de CY pour ça.
Ça va être une super journée qui sera dynamique, stimulante, networking, des partages, des tables rondes, des démonstrations. On essaie vraiment de proposer quelque chose de dynamique pour que tout le monde puisse trouver quelque chose de positif et avoir envie d'intégrer cette journée.
Bien sûr. Bah, écoutez, je pense que... Je suis persuadée dès le départ que ça va être une super journée, mais bon, et on aura le temps d'en reparler après d'ailleurs, hein, Céline. Alors, Olivier Fourcadet, vous, votre rôle dans ces assises de l'innovation.
Alors, avant de parler du rôle que l'on peut jouer, on va passer sur quelque chose de très concret pour montrer l'intérêt des partenariats en quelque sorte. Il n'y a pas que les assises, il y a déjà une porte d'entrée unique qui se situe à la Turbine, à Cergy.
C'est vrai.
Et donc, j'invite toutes les personnes du territoire et au-delà du territoire qui auraient une envie d'innover et qui chercheraient à trouver un partenaire qui puisse les accompagner à se mettre en relation avec CY Transfer, qui est le grand dispositif qui couvre le PU. Il faut pas attendre les assises, il faut commencer
à coopérer. Dès maintenant.
Alors, pour vous donner un exemple de coopération. Alors, il y a deux Olivier dans l'histoire. Olivier Romain, que vous connaissez, vous avez reçu 29 mars dernier pour parler du PI. Il y a Olivier Fourcadet. Olivier est un spécialiste du traitement de signal en tant que chercheur. Donc, il met en place des dispositifs. Et naturellement, on s'est posé la question de savoir où certains de ces dispositifs pourraient, disons, être marketés, mis sur le marché. Il s'avère qu'il y a peut-être la possibilité de faire que ces dispositifs puissent apporter des bénéfices dans le domaine de l'élevage.
Très bien.
Ça tombe bien.
On revient à vos premiers amours.
Et donc, ma contribution au développement de ce projet commun, c'est d'amener à trouver les spécifications techniques que devrait posséder le dispositif, ou plutôt les spécifications fonctionnelles que devrait posséder ce dispositif pour apporter le plus de valeur au client qui pourrait l'utiliser. Donc moi, j'interviens pas sur la technique. J'essaie d'établir un cahier des charges en interrogeant, en questionnant finalement les bénéfices pour les futurs utilisateurs en disant voilà les propriétés qu'il devrait posséder. Après, les équipes techniques vont essayer de développer l'ensemble des composantes de ce système de telle sorte que ces spécifications, qui généreront potentiellement le plus de valeur, sont bien dans le système. Donc, avec Olivier, avec Céline, avec les équipes, on aime bien monter des dispositifs, mais on aime montrer aussi que ces collaborations, elles peuvent au jour le jour bien fonctionner.
C'est ça, la partie concrète est très importante.
Et si je nous projette un petit peu dans le futur, nous n'avons pas d'usine. Donc il faudra à un moment donné qu'on se retourne vers l'écosystème productif, avec les entrepreneurs, les entreprises qui auront peut-être des moyens pour produire ces dispositifs.
À proposer, oui.
On va aller même un petit peu plus loin. Il va falloir les installer chez les clients. Donc, il va falloir qu'on pense aussi à des systèmes d'installation. Et donc, quand on réfléchit au projet aujourd'hui, on se projette naturellement dans les futures collaborations que l'on va essayer d'entretenir avec notre écosystème. Sans parler, bien sûr, des questions de financement, des questions de brevets qui font partie aussi de nos préoccupations.
C'est une question que j'allais vous poser. Comment gérez-vous justement les priorités de propriété intellectuelle?
Ah, ça c'est une question que je déteste parce qu'elle est d'une complexité phénoménale. Non, c'est un sujet qui est un sujet délicat. Quand on va chercher des fonds auprès d'une, on va dire un VC, une des premières questions qui nous pose, c'est est-ce que vous avez des brevets? Les brevets, c'est le droit de propriété que l'on a sur une innovation technique. que l'on va pouvoir louer sous la forme de licence. Et naturellement, ça rassure en quelque sorte le financier qui, dans son portefeuille, quand il achète une entreprise ou prend une participation dans notre entreprise, il a quelque chose qui lui dit il y a une innovation et j'ai le droit de propriété, donc ça le réconforte.
Il va y avoir un retour sur investissement, en clair.
Oui, et puis une certaine forme de sécurité par rapport à une innovation qui est réalisée sans brevet. Donc il y a toute une réflexion à avoir qui interroge finalement sur la nécessité de prendre un brevet. Si je n'ai pas envie de réaliser de licence, j'ai besoin de garder le droit d'exploiter mon innovation. Il y a d'autres dispositifs qui permettent de le faire.
D'accord.
Mais on sent parfois que dans les consortiums qui se bâtissent, il y a toujours une tension autour de ces brevets. Il faut apprendre à négocier avec ses partenaires, trouver les bons arrangements qui vont faire que tout le monde va y trouver son compte.
Merci infiniment, Olivier. Céline, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous aimeriez répondre?
Non, juste préciser que les assises sont organisées dans le cadre d'un groupe de travail où il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont impliquées, qui sont soit des équipes des membres fondateurs, soit des équipes des partenaires. Donc on est vraiment dans une co-construction et dans l'idée, c'est vraiment de réussir à embarquer tout le monde dans ce PUI et servir l'innovation pour que tout soit plus efficace sur le territoire.
Très bien.
Voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre le projet.
Oui, on va en parler. On va en parler régulièrement. On va communiquer sur ces assises de l'innovation, donc qui auront lieu le 28 novembre à l'espace Numix de Sarcelles. Merci Céline. On vous retrouve. On revient vers vous tout à l'heure pour avant la fin de l'émission pour un petit mot de conclusion. Merci beaucoup à vous.
À tout à l'heure.
Merci Olivier. Alors je voulais vous poser la question. Avec nous avons Philippe Bonne, donc président de Midrange, et puis Vanessa Schweitzer, fondatrice d'Abracadabrac. Est-ce que votre stratégie serait utile pour l'un et l'autre?
La stratégie du PUI?
Non, pas forcément du PUI, votre stratégie entre les... peut-être du PUI, pourquoi pas, je ne sais pas.
Je vais me tourner vers nos invités, puis leur poser la question, quels sont vos besoins? Quels sont les objectifs que vous avez? Parce que la conversation commence toujours
comme
par...
ça.
Ne jamais répondre à la question de Jacqueline, en quelque sorte, et plutôt engager une conversation, parce qu'il est tout à fait possible que, dans notre dispositif, il y ait des solutions qui puissent satisfaire nos invités.
Très bien.
Mais on a besoin de comprendre ce que l'on peut apporter.
Converser avant.
Il y a une partie conversation que je qualifierais conversation liée aux activités. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, et très, très justement, c'est une affaire d'hommes, de femmes, de rencontres. S'il n'y a pas une envie presque individuelle de faire les choses, une espèce de idée d'être le champion de quelque chose à faire, ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'il y ait une synergie à la fois intellectuelle et puis... entrepreneurial, quoi.
Oui, une passion commune, une rencontre, quelque chose qui va faire que les ingrédients vont bien s'assembler, la mayonnaise va prendre et elle va bien tenir et elle sera délicieuse.
Philippe Bonne, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, Midrange Group fait partie du PUI.
D'accord.
Et donc je vais pouvoir vous dire ce
formidable. Je ne le savais pas.
Ce qu'on est allé chercher, c'est tout d'abord la conscience que la création d'un écosystème autour de l'innovation dans le Val d'Oise est possible. Je dirais même plus facile, puisque c'est un petit peu comme l'agriculture. Quand le terroir est là, c'est assez facile de faire sortir un projet. Et le terroir de l'innovation, il est présent dans le Val d'Oise, tout simplement puisqu'il y a déjà beaucoup d'universités et d'écoles qui vont pouvoir participer à la création de ces innovations. Et c'est CY Université Paris qui regroupe tout un ensemble d'écoles, d'ingénieurs, universités, dans nos domaines des technologies et du numérique, il y a les CIT, CYTech, NCTech, enfin il y a tout un ensemble, les SEC bien sûr. Donc les étudiants sont là, les universités, les écoles sont là. Et puis il y a des organisations qui cristallisent l'innovation, qui sont des symboles d'innovation. Et là je pense à la turbine, qui est l'équivalent d'une station F pour le territoire. Et qui porte, je crois, déjà 70, 80, 100 start-up innovantes qui vont pouvoir être le fer de lance de cette transformation. Donc les start-up sont là et elles ne sont pas
elles
seulement à la
turbine. Elles ne demandent qu'à être finalement à s'épanouir.
Absolument. Et pour qu'une start-up puisse porter ses innovations vers le marché, il faut à la fois qu'ils aient des étudiants et puis des collaborateurs pour pouvoir développer ces innovations. Il faut qu'ils aient un lien concret avec le marché. Et ce lien concret avec le marché, il se fait à travers des partenariats avec les entreprises. Des entreprises de toute taille, hein, des PME, des ETI, des grands comptes, qui vont, en s'associant avec ces start-up, pouvoir construire leur politique de transformation et d'innovation. C'est souvent plus simple de développer des innovations, surtout quand ils sont disruptantes et qu'ils remettent en cause le fonctionnement de l'entreprise, c'est toujours plus simple de les isoler d'une certaine manière ou de les lancer en dehors d'une organisation qui va devoir, par rapport à ces innovations qui vont transformer l'organisation de l'entreprise, pouvoir être portées. Donc le fait de pouvoir collaborer entreprise, université, start-up, c'est très important.
C'est
et cet écosystème, on l'a, absolument. Ensuite, les start-up, elles sont innovantes et elles s'adossent sur une culture et des outils. Les outils sont les outils digitaux, numériques, informatiques. Là aussi, on a un pôle universitaire magnifique, avec des écoles magnifiques. Par contre, il faut pouvoir faire ce lien. Et là, il y a un travail à faire qui est souvent fait par les entreprises de services numériques. Alors, on a un leader du numérique qui s'appelle Atos, dans le Val d'Oise, pour être fier. Belle aussi, hein. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres entreprises de services numériques de plus petite taille qui font un travail formidable de mise en lien en termes de méthodes de transformation. On parle de méthodes agiles qui sont typiquement des méthodes enseignées dans les différentes universités et écoles. Et à travers les échanges qui se font avec les entreprises via des stages de fin d'études, via de l'alternance ou l'embauche d'étudiants, il y a beaucoup de mentorat inversé qui fonctionne très bien, c'est-à-dire que ces étudiants viennent avec leurs nouvelles pratiques, les nouvelles méthodes qui sont agiles, du Scrum, enfin bon, et qui permettent à l'entreprise traditionnelle de pouvoir se réformer, se transformer, et au fil de l'eau, faire typiquement ce que la SNCF a pu faire ces dernières années, passer d'un mode opératoire avec des guichets, une relation humaine en face à face, à des applications qui portent l'innovation digital, et qui renforcent leur relation client et leur performance opérationnelle. Voilà ce qu'on a à faire. Et dans le Val d'Oise, je crois qu'on a plein d'atouts pour ça. L'important, c'est qu'on en soit conscient déjà. Et ça s'appelle une fierté de territoire. Et puis qu'on puisse se parler, c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Merci infiniment Philippe Bonne pour toute cette précision et puis cet éclairage qui vient complètement confirmer ce que vous nous avez dit, Olivier Fourcadet. Merci Fourcadet pour nous avoir permis de comprendre cette vision stratégique du professionnel et les défis qu'il rencontre avec ses bénéfices que l'entreprise pourra en retirer dans ses partenariats. Merci infiniment. On fait une nouvelle pause et puis on va revenir à des choses très concrètes avec Vanessa Schweitzer. À tout de suite.
Permet pas. écrit une vie pour pouvoir tout changer. Les enfants ont des ailes pour voler, voler, voler. C'est quand la nuit tombe qu'ils deviennent colons pour rêver, rêver, rêver. Hey, yeah. S'enfuir de tout, le crayon sera sa. Les faits sont déçus. Un verre, une rime, les mots s'unissent pour protéger la victime. Il lui faut son mot pour pouvoir tout changer. Pour voler, voler, voler. Quand la nuit tombe, qu'ils deviennent colons. Pour rêver, rêver, rêver. Elle ne
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Et ce matin, nous parlons de stratégie et d'innovation en présence de Céline Bertin, responsable marketing et communication de CY Transfer, Olivier Fourcadet, professeur de stratégie et co-titulaire de la chaire Food de l'ESSEC, chaire partenariale avec les entreprises Metro, groupe Bell et McCormick, Vanessa Schweitzer, fondatrice du parc de loisirs Abracada Park, et Philippe Bonne, fondateur et dirigeant de Midrange Group. Vanessa, on s'est rencontrés pour la première fois, je crois qu'il y a tout juste un an à peu près. Enfin, j'ai pas regardé la date, mais je crois que c'était peut-être en octobre 2023. Et à l'époque, vous aviez bien entretenu le mystère sur l'endroit où allait naître votre parc, hein. Vous avez tenu jusqu'au bout pour ce mystère. Rappelez-nous ce qui vous a inspiré à créer ce parc, Vanessa.
Oui, alors déjà, je voulais vous remercier de m'avoir invité de nouveau dans votre émission. Je suis ravie d'être là. Tout simplement, en fait, on a visité un parc il y a 7 ans pendant nos vacances et on est revenu chez nous. Et ma fille n'a pas arrêté de me demander de retourner dans ce parc de loisirs. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas de parc de loisirs où les adultes s'amusent avec les enfants ici. Et je lui ai dit, mais t'as raison, il n'y a pas de parc de loisirs où les adultes s'amusent avec les enfants ici. Et j'étais absolument pas dans l'entrepreneuriat. Mmh. Et cette question, en fait, elle a trotté dans ma tête. Et je me suis lancée. Voilà, j'ai fait une étude de marché. Je me suis dit, oui, en effet, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ça a pris un peu de temps, puisque forcément...
Oui, c'est, ça se fait pas comme ça.
Exactement. Et en plus, à l'époque, j'étais enceinte de mon deuxième enfant et j'étais sur le point d'accoucher. Donc, j'ai pris le temps de m'occuper de mon fils et quand même à répéter à plusieurs reprises justement cette question. Bah voilà, j'ai décidé de me lancer, de tout quitter. Donc, c'est ce que j'ai fait en 2021. J'ai fini par quitter mon poste.
Et vous étiez dans quelle activité?
Alors, pour ma première vie, j'étais designer transport.
D'accord.
Donc, voilà, j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que designer transport sur le dessin industriel. Et après, je me suis reconvertie parce que, bon, malheureusement, il y a eu la crise en 2008. Mmh. Et ce qui a fait que l'entreprise où je travaillais a dû fermer ses portes. Et je me suis reconvertie dans le développement de sites Internet.
D'accord.
Donc, pendant 10 ans, j'ai travaillé en tant que développeur web. J'ai adoré, sauf que j'avais envie de faire autre chose. Je pense que la nature, ça a toujours été en moi.
Vous avez appelé.
Mmh. Exactement. Et aujourd'hui, je suis tellement apaisée de travailler là où je travaille. Mon bureau est juste... voilà. Incroyable.
Malgré tous les problèmes de que rencontre un entrepreneur, hein, en fait, c'est jamais un long fleuve tranquille. Hein.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de recul par rapport à ça. L'endroit où je travaille, il est juste idyllique. Enfin, moi, je me sens hyper bien et ça m'apaise beaucoup. Et donc voilà, ça me permet justement de prendre chaque chose, chaque problème, l'un après l'autre, et on arrive tranquillement à le résoudre et à trouver des solutions.
Alors, comment, vous nous en avez déjà dit un petit peu un mot, mais comment décririez-vous l'expérience unique qu'offre Abracada Park par rapport à d'autres parcs de loisirs?
Eh ben, au début, voilà, les premiers jours étaient un peu compliqués. C'est vrai que on est dans une société où les adultes ont plus ou moins l'habitude de payer, en fait, une entrée à leurs enfants et eux ne participent pas. Mm-hmm. Et à Abracada Park, on est vraiment sur une thématique autour de la magie de la nature, du loisir et de la culture, puisque je suis installée dans le vieux pays à Goussainville, où il y a un vrai engouement sur la culture, puisque juste à côté du parc, en fait, est situé l'ancien château de Goussainville.
D'accord.
Pour rentrer dans le parc d'Abracada Park, il faut bien évidemment passer par les écuries de l'ancien château. Donc il y a vraiment un côté culturel très
fort,
charmant,
hein,
exactement.
Oui.
Et le terrain où je me suis installée, l'ancienne friche, donc l'ancien parc des écuries. J'ai perdu le fil de la question, pardon.
Je demandais comment décrire l'expérience unique qu'offre Abracada Park.
Je vous remercie. Et ben, en fait, voilà, le concept, c'est vraiment les adultes s'amusent avec les enfants. Donc au début, les parents venaient et nous demandaient voilà, 2 entrées pour les enfants. Ils leur expliquaient au fur et à mesure le concept que ici, vraiment, nous, en tant qu'adultes, on avait aussi notre âme d'enfant qui, malheureusement... au fil
oui,
du temps, on l'oublie
on
un petit peu.
Oui.
Et je suis ravie parce que ça a fait un peu son petit bonhomme de chemin. Les gens aujourd'hui comprennent vraiment le concept d'Abracada Park. Et j'ai beaucoup de grands-parents qui viennent avec leurs enfants, qui viennent avec leurs petits-enfants et qui nous remercient à la fin de la journée et qui nous disent c'est un endroit vraiment charmant. On se sent apaisé, on repart, on est plein d'énergie et surtout on a passé un moment de cohésion, de partage ensemble. Que ce soit sur le loisir, sur la découverte de la nature. Et on a des très bons retours. Et moi, je suis ravie de pouvoir accueillir ces familles entières, intergénérationnelles.
Donc, aucun regret dans la création de Spark. Hein.
Ah non, pas du tout.
Malgré
au contraire.
Toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Alors, vous vous êtes installée à Goussainville. Donc, vous avez rencontré Abdelaziz Hamida, le maire de Goussainville, un maire adorable. Ça a tout de suite matché entre vous?
Alors, dans un premier temps, j'ai rencontré l'équipe municipale.
D'accord.
J'ai pas rencontré tout de suite Monsieur Hamida, mais quand je lui ai expliqué le concept et justement l'envie que j'avais de m'installer à Goussainville et de faire revivre entre guillemets le vieux pays, puisque bon, il y a quand même aussi cette idée-là. Je pense qu'il a adoré. On s'est serré la main. Il m'a dit :« Je compte sur vous. On va faire un beau projet. » Et c'est vrai que j'ai eu le soutien de Monsieur Hamida, de l'équipe municipale. Ça a été un long parcours pendant 2 ans et demi justement pour acquérir les autorisations, que ce soit au niveau du PLU, de la préfecture, de l'ABF. Mais au final, tout s'est très bien passé, même si à l'inauguration, voilà, il m'a quand même dit que je l'avais légèrement bousculé. voilà. Mais en soi, c'est un beau projet. Je pense qu'ils sont aussi très... Enfin, ils sont ravis que je me sois installée.
C'est ça, ils ont, c'est un, comme on disait, c'est un partenariat gagnant-gagnant.
Exactement, ouais. Tout à fait.
Merci Vanessa, je propose qu'on fasse une courte pause et puis on reprend cet entretien.
Merci Jacqueline.
J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse.
Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau, c'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage.
Je veux juste une dernière danse avant l'ombre. Ça ne change rien, j'ai resté de ses mains. Le bonheur ancré dans mon âme, c'est même trop pour un seul homme. Je l'ai vu partir sans rien dire, il fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté ma vie avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse.
J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Et j'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait de moi.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Merci d'être resté avec nous. C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission consacrée à CY pour nous présenter le PUI et les assises de l'innovation qui auront lieu le 28 novembre à l'espace Numix de Sarcelles, mais également l'occasion d'accueillir Philippe Bonne du groupe Midrange et puis Vanessa Schweitzer du parc de loisirs Abracadabark. Vanessa, comment avez-vous choisi les activités et les installations du parc pour répondre aux attentes des enfants et des parents? Parce que est-ce que ça a compliqué le fait de vouloir impliquer parents et enfants?
Alors déjà, ce qui n'a pas été facile, c'est que le terrain était extrêmement difficile à mettre en place. En fait, on a différents arbres, différentes espèces. On a pris beaucoup de temps avec mon fournisseur justement pour choisir quel jeu exactement. Ouais. Donc de toute façon, je partais du principe qu'on était sur des parcours de filet. Ça, c'était sûr, parce que c'est pour moi un loisir qui permet justement de pas avoir de baudrier. Mmh. Donc c'est très accessible, c'est très facile, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi ces jeux-là pour pouvoir justement accueillir le maximum de personnes. Mmh. Et je rebondis là-dessus sur le fait que, au-delà du fait qu'on accueille les grands-parents, les parents et les enfants, je suis très fière de pouvoir accueillir aujourd'hui les IME. On a un public complètement diversifié.
Et expliquer ce que sont les IME.
Exactement, donc c'est les instituts médicaux éducatifs. On a eu un public cet été pour les personnes malvoyantes, des personnes sourdes et des autistes, avec des niveaux plus ou moins élevés. Et je suis très fière justement d'avoir été jusqu'au bout de mon envie de d'installer des jeux entièrement sécurisés avec des filets suspendus dans les arbres. Parce que ce retour justement des IME est pour moi très important. Et il valide le fait que le concept que j'ai mis en place, bah, il fonctionne.
C'est ça. Vous n'êtes pas trompé.
Non, exactement. Et quand on a des animateurs et des accompagnants qui nous félicitent à la fin de la journée en nous disant, bah, nos jeunes ne se sont jamais aussi bien comportés et ils ont été tellement expressifs, ça me rend très fière.
C'est ça, oui, je comprends.
Donc voilà, l'installation des filets suspendus, pour moi, ça a été un choix très important parce que j'avais ce besoin de créer un loisir qui était adapté, accessible et créer du lien. Donc on est passé en effet par le Covid il y a quelques années. Les gens se sont concentrés sur le fait que le partage et créer des liens avec la famille était très important. Malheureusement, on l'a oublié très rapidement. Et je revis des moments exceptionnels quand je parle avec, je ne vais pas dire mes clients, mais justement les...
C'est ça, oui.
Pour moi, c'est au-delà
de créer un lien.
Exactement. Ouais.
Donc, les initiatives que vous avez prises pour prendre le parc le plus accessible et inclusif à tout public ont été les bonnes.
Oui, je suis ravie de ce choix. Ça a été voilà, plusieurs années de travail justement à réfléchir, de réflexion, qu'est-ce que je vais mettre en place? Parce que bien évidemment, je voulais absolument pas mettre les mêmes jeux qui existent déjà dans les
ailleurs,
autres parcs.
Oui.
Exactement. Créer du lien avec la nature, pour moi, c'était en totale cohérence. Créer du loisir, mais aussi mettre en avant tout ce qui est écologie, respect de l'environnement.
C'est ça.
Parce que là où je suis installée, il y a toute une histoire. On a des terriers d'animaux, on l'explique aux visiteurs. On a vraiment protégé les terriers d'animaux. On a vraiment remis en place toute la nature, on lui fait du bien. Et elle nous le rend, en fait, puisque le slogan, c'est « La magie prend vie à Bracada Park ». Et on a de plus en plus d'animaux qui reviennent. On a régulièrement des écureuils. On a toute une biodiversité qui revient. Et c'est vrai que quand on raconte aux enfants et aux adultes, eh ben, on voit leurs yeux complètement émerveillés et ça, la magie fonctionne.
Et alors, justement, dans cet esprit d'environnement et durabilité, comment vous gérez l'impact environnemental lié à l'exploitation du parc, notamment au niveau de l'énergie, des déchets?
Alors nous, déjà, on a installé des poubelles partout sur le parc. On ne met pas en place tout ce qui est paille, gobelets en plastique. Le public est habitué à ce genre de choses, donc on l'explique au fur et à mesure. Exactement.
Ouais. On a mis en place maintenant.
Exactement. Ouais. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Je suis vraiment contente parce qu'on a très très peu de déchets sur le parc. Les gens nous le disent, hein, vraiment, c'est propre.
Donc il y a un vrai respect.
Exactement. Ouais. Donc après, on les sensibilise. Donc quand on leur explique le concept et pourquoi en fait on a intégré la Bracada Park dans ce lieu, ils le comprennent. On a vraiment des bons retours sur même quand les gens viennent pique-niquer, ils font bien attention à leurs déchets. Alors ça arrive qu'on retrouve des fois des petits déchets au sol, mais c'est exceptionnel.
C'est pas une poubelle en tout
cas. Absolument pas. Non, on est vraiment dans un environnement qui fait du bien. Et je pense que les gens le comprennent assez bien et du coup respectent. Et d'autant plus les enfants. Donc je suis ravie.
Oui, c'est en fait ça a valeur d'éducation.
Exactement, tout à fait.
Quelle est votre vision pour l'avenir d'Abracada Park à long terme, Vanessa?
Bah là, je suis déjà en train de préparer déjà la saison sur octobre, la saison de l'année prochaine, pour améliorer et réaménager en fait tout l'espace anniversaire, parce qu'on fait des anniversaires qui ont un grand succès. Donc du coup, la prochaine étape, c'est vraiment de réaménager l'espace anniversaire, de proposer aussi un espace pour pouvoir accueillir les entreprises et puis les grands groupes, parce qu'on a accueilli des grands groupes, 169 personnes. Ça s'est exceptionnellement bien passé. Donc, le but, c'est de pouvoir accueillir encore pour l'année prochaine des groupes aussi nombreux, voire plus. Et puis, je vous en dis pas plus, mais voilà, il y a plein de choses qui va se passer. Éventuellement, l'agrandissement. Éventuellement, voilà, par la suite, plus ça va fonctionner, forcément, plus je vais avoir envie de m'améliorer. On parlait de partenariat tout à l'heure avec CY. J'ai déjà créé un lien avec une société, justement, que je garde secrète, bien évidemment, pour le futur et pour créer du lien, créer un partenariat sur le respect de l'environnement et au-delà, créer de la magie dans ce lieu-là. Mais voilà, j'espère que d'ici un an ou deux, on pourra mettre les choses en place. Mais ça fait déjà 2-3 ans qu'on travaille ensemble. Donc
voilà, vous avez de la suite dans les idées.
Oui, oui,
on a bien
le but,
compris
c'est
que vous étiez bien structuré dans votre tête.
Exactement,
et que ça
faut voir loin.
Bien. Quels sont vos besoins aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, mes besoins, c'est tout simplement de rentrer en contact avec les mairies pour me faire connaître auprès des centres de loisirs et des écoles, auprès des enseignants, pour leur proposer justement un loisir complètement différent de ce qu'ils ont l'habitude de vivre. Puisque nous, quand on explique aux enfants qu'on n'a pas besoin de baudrier, ça les rassure énormément.
Bien sûr.
On a beaucoup d'enfants qui ont un peu cette appréhension du vide ou qui n'ont pas forcément l'habitude de faire du sport. Nous, à Abracada Park, eh bien, on n'a pas besoin de ça.
Mm-hmm.
On a simplement besoin de chaussures fermées et juste d'avoir envie de s'amuser et de lâcher prise. Et on a des retours d'enfants qui nous disent « Oh, mais c'était génial, j'avais peur du vide, je suis pas sportif, mais en fait, je me suis pris au jeu et on s'est vraiment bien amusé. » Donc voilà, de rentrer en contact et d'expliquer notre concept, puisqu'on a un concept qui est assez nouveau. Et puis au niveau du public, voilà, petit à petit, on arrive à se faire connaître. Donc voilà, si j'arrive à rentrer en contact et de proposer mon projet exactement au centre de loisirs,
le bouche à oreille va fonctionner, hein, probablement. Une dernière question, Vanessa, quel coût, quel est le prix d'une entrée?
Alors on est sur un tarif unique, donc volontairement j'ai proposé un tarif unique pour faire évidemment pas comme tout le monde. On est sur un tarif entrée de 10h à 18h à 16,90€.
D'accord.
Donc que ce soit les enfants, donc c'est gratuit avant 2 ans. Mais à partir de 2 ans, les enfants peuvent tout à fait faire la totalité des jeux. Et on a des très bons retours, justement, que ce soit pour les grands-parents
également,
ou les parents. C'est excessivement bien sécurisé, accessible. Et en fait, voilà, on est vraiment... on a des familles qui viennent que le matin, des familles qui viennent que l'après-midi ou des familles qui viennent toute la journée. 16,90€,
oui,
pour moi,
c'est
un tarif qui est accessible pour passer un moment en famille, exactement. On a également proposé, depuis la rentrée, des tarifs un peu plus bas, à 9,90€. Mais du coup, là, on est sur un temps d'une heure et demie.
Oui, c'est ça.
Ça fonctionne aussi très bien.
Oui.
Donc, du coup, ils sont à fond pendant une heure et demie.
Oui, parce qu'au fond, tout le monde n'a pas forcément le temps d'une matinée.
Exactement. Tout à fait.
Merci infiniment,
merci
Vanessa.
Jacqueline.
Et puis voilà, ben on vous souhaite, j'avais dû vous le dire l'année dernière, mais on vous souhaite tout le succès que vous méritez pour cette belle innovation. Merci infiniment.
Beaucoup.
Un mot peut-être, Olivier, sur ce projet.
Oui.
Qu'est-ce qu'il vous inspire?
Je suis admiratif. Et puis ce projet, c'est aussi une réalisation qui connecte avec des besoins, qui sont des besoins réels. Vanessa, il y a aussi dans la vie quotidienne, cette course effrénée, on a le temps à rien. Et finalement, on se déconnecte de nous-mêmes, on se déconnecte des personnes qui nous sont chères. Et d'un seul coup, on a besoin de moments. La nature est absolument fabuleuse pour se connecter, se reconnecter à soi-même, prendre le temps de vivre... Prendre le temps de vivre avec ses enfants. Donc, je dirais, c'est une vertu
vous
thérapeutique.
Vous avez été séduit.
Oui, je suis séduit. Puis moi, je suis désolé, j'ai un petit peu conceptualisé derrière.
Non, c'est très bien.
Mais alors, moi, mon domaine, c'est l'agroalimentaire. Et donc, on voit aussi ce besoin de reconnexion qui passe par le temps dans la cuisine, retrouver la possibilité. On est très virtuel aujourd'hui. Retrouver le temps pour des petits gestes. Mais c'est absolument fabuleux.
Oui,
donc, j'ai envie d'y aller.
Oui,
en plus, il y a des terriers à découvrir.
Ça donne envie d'y aller, absolument.
C'est fabuleux.
Philippe, je vous pose la question aussi. Est-ce que ça vous donne envie d'aller dans ce parc?
Absolument. Vous savez, dans les entreprises, on parle beaucoup actuellement de responsabilité sociétale et environnementale. On parle de responsabilité sociétale territoriale. Là, on a... l'ensemble de ces valeurs qui sont représentées.
Qui sont réunies, oui.
Donc, je crois que c'est très important et vous allez forcément avoir un très grand succès à la conjonction de l'ensemble de ces valeurs. Vous êtes exactement dans le bon timing, c'est ce que recherchent les gens. Et puis, je suis admiratif aussi pour le parcours de l'entrepreneur. Je vois ce que c'est.
Ouais,
je suis entrepreneur depuis plus de 30 ans. Donc je vois ce qui vous attend. Le projet est beau. Et puis après, il y a la vie tous les jours, la construction, le financement, le management, le recrutement. Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur dans ce parcours, qui est jamais simple, mais qui est enthousiasmant, et où vous allez apprendre à vous connaître, j'imagine. Et c'est probablement le plus important, de porter un beau projet qui a du sens, et d'apprendre à se connaître, et d'aller au bout de soi-même en tant qu'entrepreneur. Donc bonne chance, longue vie à votre beau projet, et puis si on peut tous y participer, on essaiera de vous aider le plus possible.
Merci. Écoutez, moi, j'ai trouvé deux animateurs formidables avec Philippe et Olivier pour ma conclusion.
On se projette dans le futur. Vanessa, est-ce que vous avez envie d'essaimer? C'est un concept fabuleux. Peut-être il faudrait le multiplier sur de nombreux territoires.
Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Tout a été pensé, justement, bien sûr.
Bravo. Écoutez, vous revenez quand vous voulez, Vanessa, pour nous parler de ce beau projet.
Merci beaucoup, à vous. Jacqueline.
Allez, ne partez pas, on continue dans quelques instants avec Philippe Bonne pour la suite de cette émission. À tout de suite. Toujours l'économie en direct sur IDFM Radio. Ce matin, nous parlons de PUI, de parcs de loisirs, de formation dans le numérique, avec à mes côtés Céline Bertin, responsable marketing et communication CY Transfer, Olivier Fourcadet, professeur de stratégie et co-titulaire de la chaire Food de l'ESSEC, Vanessa Schweitzer, fondatrice du parc de loisirs Abracadab Park, et Philippe Bonne, fondateur et dirigeant de Midrange Group. Alors Philippe Bonne, je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans mon émission. Peut-être nous donner puisqu'on parle de stratégie, quelle est la vision stratégique à long terme de Midrange Group ?
Midrange, très simple. On accompagne nos clients, que ce soit des TPE, PME, ETI, grands comptes, dans leur transformation numérique. Donc on les accompagne dans le fait de repenser leur modèle et d'intégrer pleinement les nouvelles technologies. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle actuellement, c'est un vrai sujet. Ce qui est vu, c'est que le numérique va bouleverser complètement la manière de travailler des gens, même la manière de vivre.
Le quotidien, oui.
Le quotidien. Le Covid en a été un accélérateur, puisque du jour au lendemain, on s'est retrouvé en télétravail, alors que c'était une notion qui était portée. Alors, nous, on a des gens qui sont en télétravail depuis 18 ans. Donc, c'est parce qu'on avait cette maîtrise de la technologie qu'on avait pu adopter ces nouveaux usages. Là, ça a été précipité d'une certaine manière. On voit arriver, ce qui est prégnant aussi, c'est les risques liés à la dépendance numérique que peuvent avoir les entreprises. C'est le risque cyber. On l'a vu dernièrement avec les sujets CrowdStrike, qui est un logiciel qui permet de garantir la sécurité informatique, système d'information, qui a pas été mis à jour de la bonne manière,
un truc
on n'imagine même pas. Et on a vu des aéroports entiers en arrêt d'activité, donc on a une dépendance numérique qui est très importante. Donc la cyber est aussi un vrai sujet de pérennité pour les entrepreneurs, puisque c'est le vrai sujet de l'entrepreneur, c'est la pérennité de son organisation, la performance de son organisation, et puis le bien-être de ses collaborateurs aussi. Le numérique, ça y participe. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du conseil, du service et de la formation. Et comment est arrivée la formation ? C'est qu'on voyait à travers les activités de conseil qu'il était au final assez facile d'imaginer des transformations pour les entreprises et pour leurs dirigeants de bien comprendre qu'il y avait des accélérations qui sont en train de se faire et que le numérique allait participer à la transformation de leurs organisations. Ensuite, des éléments techniques à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle chez nous les services managés. C'est le fait de gérer le support des utilisateurs, le support des logiciels, ce qu'on appelle le support fonctionnel, l'infogérance, la gestion de parc et la cybersécurité, ça c'est de l'informatique si vous voulez. Et puis après il y a des sujets qui sont liés à l'innovation. On en parlait tout à l'heure, l'innovation est portée par le développement.
Oui.
Donc le développement d'applications, la mise en place de plateformes cloud, de logiciels qu'on appelle SaaS, de l'allocation de logiciels, et qui porte tout un ensemble d'outils qui permettent de faire du reporting, ce qu'on appelle le BI, d'automatiser des tâches, et puis de transformer le mode opératoire des entreprises avec l'IA. Donc tout ça, c'est à portée de main. Ensuite, il faut avoir des équipements. Ces équipements, on les gère. C'est ce qu'on appelle, nous, la gestion responsable des équipements, en s'engageant à ce que l'empreinte carbone soit la plus faible possible, puisque l'IA, ça va stresser les data centers qui vont consommer de plus en plus. Donc faut s'assurer à ce que l'empreinte carbone est... lié à l'usage des équipements, lié à la consommation de ces data centers, soit le plus faible possible.
Alors, quand on a tout ça, je fais juste une aparté. Ça rejoint un petit peu votre rôle d'élu à la CCI, vous êtes responsable du développement durable. Donc, vous rejoignez un petit peu. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez cette commission probablement.
Absolument. À la Chambre de commerce, je suis élu et je porte deux sujets qui est la mobilité durable. Et l'économie sociale et solidaire, un rôle sociétal pour entreprises, c'est faire que l'entreprise se positionne dans l'accompagnement de la transformation de la société et amène à ce qu'il y ait plus d'inclusion, d'égalité, et donc c'est tout l'engagement RSE des entreprises qui doit être porté et au plus proche à destination du territoire, ce qu'on appelle la responsabilité sociétale territoriale, ça c'est important. On est en train de le faire rayonner en ce moment à travers un projet qu'on appelle le numérique responsable. Et on associe des entreprises adaptées qui sont spécialisées dans le reconditionnement informatique. On y associe l'ensemble des acteurs de l'économie autour de numérique, c'est-à-dire les grands comptes, mais aussi les administrations qui ont des obligations en termes d'acquisition de systèmes d'information. Ils ont une obligation liée à la loi AGEC et RIN d'acheter 20% de leur équipement IT issu de l'économie circulaire, donc en réemploi. Alors, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est boucler l'ensemble des acteurs. Donc ça demande de la communication et puis des échanges entre nous pour que ce numérique puisse être porté de la meilleure manière dans le Val d'Oise, puisque on s'aperçoit que les acteurs sont là et maintenant il faut qu'on puisse boucler. Donc ça, on le fait à la Chambre, tout comme on le fait aussi sur la mobilité durable. C'est de faire qu'on puisse accompagner la transformation des modèles. On a un territoire d'expérimentation qui est magnifique, puisqu'il représente tout ce qui existe. C'est-à-dire, c'est un territoire rural, un parc naturel. Donc là, la mobilité, elle est particulière. On vient de loin pour aller travailler. Mais aussi des zones qui sont hyper urbanisées autour de Cergy, Argenteuil et Roissy. Un hub avec le pôle de Roissy et puis ses grands prestataires comme FedEx. Roissy, c'est le hub européen pour tout ce qui est aviation. Et donc, on essaie de faire une synthèse et un accompagnement des usages et des habitudes pour qu'au final, on puisse faire plus d'autoportage, que les entreprises puissent mutualiser leurs moyens pour pouvoir apporter une mobilité douce. Alors, il y a tout un ensemble de choses qui se font aussi avec les communautés d'agglo, les mairies, etc. Et ça, c'est enthousiasmant, puisque ça permet... Non, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a l'ensemble des acteurs et solutions... maintenant, ce qu'il faut réussir à faire, c'est travailler
faire prendre
ensemble.
Prendre la mayonnaise, comme disait Olivier.
Voilà. Quand un universitaire parle à un élu, qui parle à un chef d'entreprise, vous avez déjà trois langages différents. Donc, on a une première chose à faire, c'est essayer de se comprendre. Essayer aussi de vivre ensemble. On a un territoire qui est particulier où, moins qu'en province, les gens habitent sur leur lieu de où ils travaillent. Donc on doit pouvoir se rassembler, et puis se rassembler autour d'une fierté de territoire qui est portée à la Chambre de commerce par ce que Pierre Cuchely, qui est notre président, a lancé, qui s'appelle le Made in 95.
Oui, oui.
C'est une vraie fierté de produire dans le Val d'Oise.
C'est un vrai label,
Voilà, c'est un vrai label. Et de faire rayonner tout ça... Mais le PUI en fait partie, bien sûr, puisqu'on voit qu'il y a une vraie action et on communique de plus en plus. Alors après, il faut se caler. Alors, par rapport aux universitaires, par exemple, nous, les chefs d'entreprise, on a des journées qui ne sont pas construites de la même manière. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est très disponible le matin très tôt, très disponible le soir. Bon, les universitaires ont l'habitude de faire des rendez-vous souvent beaucoup plus longs. Mm-hmm. Et puis... Le rythme aussi des administrations ou des mairies est très différent. Donc, on apprend en ce moment à se connaître à travers cette fierté de territoire. On en parlait hier, on se disait, mais il y a des facteurs différenciants et de fierté sur le territoire. On parlait de l'axe majeur, la tour Eiffel de Cergy. Il faut le mettre en avant. Il faut mettre en avant l'ensemble des atouts du territoire pour qu'on puisse demain... travailler tous ensemble pour affronter les grandes transformations qui vont s'opérer. Alors, pour revenir à notre sujet initial...
Oui, parce que, voilà, il ne faut pas perdre de vue que vous êtes là pour nous parler de formation.
On parle de transformation.
Oui.
Et quand on parle de transformation et de transformation numérique, le facteur humain est la clé de la réussite. Tous les patrons ont des projets de transformation pour leur organisation, souvent très pertinent, souvent ambitieux. S'il n'y a pas une adhésion par l'ensemble des collaborateurs à un projet qui a du sens, cette transformation, et on l'a vu souvent, ne s'opère pas. Donc il faut avoir à la fois cette vision, qu'elle puisse être à travers des méthodes qu'on connaît maintenant et qui sont portées par les universités, les écoles. On parlait de méthodes agiles, pour savoir si CY Design, par exemple, porte ce sujet-là de l'accompagnement à la transformation des organisations. On a les outils. C'est-à-dire que, si on prend des exemples passés, les taxis avaient tous les outils pour créer par eux-mêmes la plateforme d'Uber. C'était dans l'esprit des gens qui pilotaient ces organisations que ça n'a pas pu se mettre en œuvre, en ordre. Donc c'est ce qu'il faut qu'on évite à l'avenir pour qu'on n'ait pas ce phénomène de disruption. Dans ce cadre-là, France Num, il y a plus de 2 ans maintenant, apporter cette prise de conscience qui était important d'accompagner les TPE-PME en priorité, puisque les grands comptes avaient à la fois les moyens et la vision de se faire accompagner par les grands cabinets de conseil dans leur transformation numérique. Donc, ils ont lancé un appel à projet auquel on a répondu. On était un petit peu moins de 40 organisations à être sélectionnées pour accompagner la transformation numérique de ces organisations. Donc, TPE, PME, pour mémoire, hein. Donc, il y a les toutes petites entreprises 0 à 10, les petites entreprises de 10 à 50, et puis les entreprises moyennes de 50 à 250 personnes. Ce sont des organisations qui n'ont pas l'habitude d'être accompagnées par les cabinets de conseil qui sont de toute façon très coûteux. Donc, ce qui a été fait, c'est que France Num, sur ce projet ambitieux, est allé chercher l'argent à l'Europe. Le véhicule de financement, c'est la BPI, qui porte l'innovation et la transformation. On choisit donc un écosystème d'entreprises qui était à même d'accompagner à travers des formations qui sont payées directement par la BPI. Donc c'est à charge zéro.
C'est ça.
Pour les entreprises.
Donc elles ont tout intérêt à adhérer à votre.
Alors ensuite, à quoi on était confronté, c'est par quoi commencer dans la transformation numérique. Et on s'est dit que ce qui était le plus urgent pour les TPE-PME, c'était leur relation client. S'assurer, de manière très concrète, que les avis Google sont bien gérés, pour que le carrossier qui travaille parfaitement bien et qui a eu quelques échecs, 3 ou 4 ou 5 de clients, n'est pas sur sa page Google une suite de mauvais avis. Bon, ça s'appelle la communication digitale. On a commencé par ça, on a fait des centaines d'accompagnements et ça permet aux entreprises de savoir gérer simplement et en bonne intelligence leur communication digitale. Et puis ensuite, on a vu qu'il y avait d'autres sujets qui étaient prégnants, dont 2 sujets d'actualité qui impactent les entreprises de manière infinie et où les TPE-PME ne savent pas comment faire, c'est la cybersécurité. Ouais. Donc on a fait un accompagnement là-dessus. Ensuite, l'intelligence artificielle, et on rajoute à l'intelligence artificielle ce qu'on appelle le collaboratif. C'est le fait d'utiliser au mieux les nouvelles plateformes, de les intégrer dans les entreprises qui ont des modes de travail assez anciens. Mais c'est tout simplement utiliser les plateformes collaboratives qu'on a utilisées quand on s'est mis en télétravail, par exemple.
C'est ça, ouais.
Et puis décrypter ce que l'intelligence artificielle peut apporter à son secteur d'activité, en quoi ça peut révolutionner, puisque l'intelligence artificielle générative fait ressortir quoi ? C'est qu'on est réellement rentré dans une révolution numérique. Donc c'est plus de l'informatique.
Oui.
C'est à l'informatique, c'est le socle. Il faut des réseaux. Ils ont été déployés. Dans le Val-d'Oise, ça a été magnifique. Il y a eu
plus de 70,
vrai accompagnement pour que tout le monde soit raccordé à la fibre. Les clouds sont là, qu'ils soient privés, publics. Les logiciels qui permettent ces transformations, on peut les acquérir ou les louer. Ce qu'on appelle le SaaS à un faible coût. Donc tout est là. Sauf que maintenant,
il faut mettre
que tout
est
là.
En relation. Ouais.
Voilà. Ouais. Certaines organisations, par une bonne maîtrise de ces outils, ont des gains de performance, de compétitivité qui sont extraordinaires. Bon, le premier, c'est Elon Musk.
Oui.
Il n'y a pas à lui expliquer ce qu'est l'IT, la transformation, le numérique, on est d'accord.
Oui.
Ouais. Il vient de secouer de manière infinie tous les modèles de vente, de production, de support, d'après-vente, les modèles économiques de l'ensemble de l'industrie automobile. Donc ce sont ces disrupteurs-là qui ne viennent pas du métier, qui sont en train de changer les choses. Donc nous, tout notre job, vis-à-vis de ces secteurs, par exemple le secteur de l'automobile, du bâtiment, de l'agriculture, on a choisi de travailler sur des verticaux qui sont des métiers très anciens et qui n'ont pas dans leur ADN cette acquisition de la performance du numérique pour leur transformation de leur métier.
Oui, parce que je crois que il reste, c'est ce que vous nous aviez dit la dernière fois que vous étiez venu, il reste encore beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'accéder au digital, hein, je crois.
Bien sûr.
Philippe, l'heure tourne. Je voudrais que vous nous disiez, vous offrez des formations. Enfin, oui. vous pas vous offrez, mais vous proposez des formations. Oui. Dites-nous un mot sur ces formations, parce que si des auditeurs et auditrices nous écoutent, qu'ils puissent vous rejoindre.
Absolument. C'est super simple. Il faut aller sur le site de Midrange.
Oui.
Midrange-group.com. Et vous inscrivez en ligne, vous mettez votre numéro de SIRET. Il y a chaque entreprise a le droit à 3 formations.
D'accord.
Il y a 3 thèmes: communication digitale, cybersécurité, intelligence artificielle. Il n'y en aura pas pour tout le monde puisque c'est un budget qui est limité. Et c'est la meilleure manière. Mais sinon, vous communiquez sur le site.
Oui.
Vous nous appelez. Ce qu'on fait, c'est comme ces formations sont là pour déplafonner. Espèce de plafond de verre qui est lié au numérique. On a aussi une communication qui est très traditionnelle avec les apprenants pour pouvoir les aider à accéder à l'ensemble de ces outils.
Il faut que ça reste accessible.
Donc, c'est diffusé au niveau national. Moi, je suis très attaché au territoire. J'habite ici, mon entreprise ici. Je suis très fier d'être un Val-d'Oisien. Donc, si on peut participer à travers ce projet qui est, il y a 20 000 formations qui ont déjà été faites.
Oui.
Donc les volumes sont importants. Il y a une accélération là sur cette fin d'année. J'engage l'ensemble des entreprises TPE PME à le faire, à prendre le temps de le faire pour deux raisons. C'est que prendre le temps, ça veut dire prendre le sujet au sérieux, ne le confier à personne d'autre et se retrouver à la fin de cette formation avec une vision un petit peu différente de la manière dont on peut faire son dont on peut gérer son entreprise à l'avenir, gérer sa relation client, sécuriser les différentes interactions au niveau de la cyber, et puis prévoir l'avenir,
oui.
Puisque la révolution numérique, elle est là. C'est maintenant.
Mais je crois qu'il va falloir que vous reveniez, parce que j'avais plein d'autres questions à vous poser. Donc, on essaiera de faire un autre rendez-vous pour justement parler de cet avenir qui est vraiment très, très important dans ce domaine. Merci avec infiniment, Philippe. Je propose qu'on marque une pause parce qu'on va peut-être rejoindre à nouveau Céline. Et puis, on clôture cette émission. À tout de suite.
C'est un pan perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est un grand secret sous les palmiers, c'est fantastique. Je pourrais te montrer, pour y aller c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mêler tes cils. Déjà, nous y voilà, bienvenue sur la terre.
C'est l'économie en direct, c'est la fin, et je crois qu'on va faire revenir nos invités parce qu'ils ont encore beaucoup de choses à dire, le sujet est passionnant. Je leur redonne la parole avant de clore l'émission. Alors Céline, vous êtes avec nous, un mot de conclusion Céline avant de nous quitter.
Merci à tous pour avoir écouté. Toujours ce point sur les assises de l'innovation, n'hésitez pas si vous souhaitez faire partie de l'aventure à nos côtés et devenir partenaire. On a une offre de partenariat qui est accessible à tout budget et ça vous permettra de cultiver aussi bien votre image et votre rayonnement et de développer votre business. Ensuite aussi, deux choses importantes dans le cadre du PEI, ce qui va être lancé parmi plein de choses, il y a deux choses qui vont être lancées d'ici la fin de l'année. Un outil qui s'appelle Connecti, qui est un outil de mise en relation entre les entreprises et les chercheurs. Donc, chercher une expertise spécifique vous rentrez dans le fil et vous pouvez avoir accès du coup à, aux chercheurs, aux brevets, enfin tout ce qui existe dans le cadre voilà, du projet. Donc ça devrait être lancé lors des Assises le 28 novembre et on lance également le portail de l'innovation qui sera un site web où vous pourrez retrouver donc au sein de l'écosystème du PUI tout ce qui est proposé, aussi bien les appels à projets, les laboratoires, les initiatives qui sont portées par les entreprises, les success stories en collaboration, les formations. Enfin, ça sera vraiment un lieu unique, voilà, qui sera accessible du coup pour les quatre cibles qui sont les chercheurs, les entreprises, les startups et les étudiants.
Voilà, toujours avec cette volonté de mettre en lien la recherche académique et les entreprises. C'est, c'est bien l'objectif. Merci infiniment Céline d'avoir pu vous libérer pour participer à l'émission. Je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup pour votre accueil. À bientôt.
Merci Céline, merci, au revoir. Olivier, un mot de conclusion avant de nous quitter.
Oui, alors avant de conclure, vous remercier et puis rebondir sur ce que Philippe disait.
Oui.
Moi j'ai des cas en quelque sorte d'entrepreneurs qui me disent j'ai été sauvé par le numérique.
Oui.
Je vais vous en donner un.
On va vous se avez mettre, une minute.
On va se mettre dans la peau d'un meunier. Oui. Auparavant, le travail d'un meunier, c'était quelque chose qui était un petit peu plus simple parce que le grain qui rentrait en meunerie était assez homogène. Mmh. Aujourd'hui, il suffit de se connecter aux news pour savoir que la production de blé elle a été un petit peu délicate cette année.
Oui.
La qualité est totalement différente. Et là où une meule standard faisait le boulot, maintenant, il faut que la meule, elle, s'adapte au grain qui rentre. Et ça,
elle sélectionne. Il faut qu'elle sélectionne.
Pas sélectionner, s'adapter. Il faut qu'elle tourne d'une certaine façon. Et ça nécessite d'avoir des capteurs qui reconnaissent la qualité du blé, qui adaptent la meule presque en temps réel pour que ça puisse fonctionner. Sinon, le métier de meunier ne produit pas ses résultats. Céline a dit énormément de choses sur le PUI. Et dès à présent, j'invite toutes les personnes qui souhaiteraient mieux le comprendre ou le rejoindre, de se connecter sur le site cytransfer.cyu.fr.
Et rappeler donc, comme l'a dit Céline, mais je le rappelle à mon tour, que le 28 novembre ont lieu les Assises de l'innovation à l'espace Numix de Sarcelles. Donc, vous pouvez participer à ces assises en tant que partenaire, mais aussi spectateur, enfin acteur de ces assises. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de CY pour en savoir plus. Merci infiniment de votre présence, Olivier. Et puis, j'espère que vous reviendrez. Vanessa, un mot de conclusion.
Oui, moi je voulais vous remercier de nouveau et simplement dire que voilà, nous on est toujours ouverts de les mercredis et les week-ends de 10h à 18h jusqu'aux vacances scolaires. Donc si vous avez besoin de prendre l'air, de voilà, créer un lien avec votre famille et vraiment vivre un vrai moment de vie, tout simplement, n'hésitez pas à passer à Bracadaparc à Goussainville et on vous accueillera avec grand plaisir.
Merci encore. On va accourir à ce parc, à Bracadaparc. Merci beaucoup, merci Vanessa. Philippe Bonne, le mot de la fin est pour vous.
Oui,
une
vous
minute,
pour
Philippe.
Cette,
Philippe.
Je vous remercie pour cette mise en visibilité. Donc, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur du numérique.
Oui.
C'est en l'adoptant, en le comprenant, que vous allez pérenniser l'ensemble de vos organisations. Nous, on est allé chercher un budget. Donc, c'était un vrai travail. Nos formations, elles sont gratuites.
C'est ça, pour mettre à disposition.
Pour rappel, c'est communication digitale, cyber et intelligence artificielle. Allez sur le site de Midrange, c'est midrange-group.com. Et puis, on participera à vous faciliter votre transformation numérique. Et puis, si on peut le faire en priorité sur le Val d'Oise, on en sera d'autant plus fiers.
Et je pense qu'on vous retrouvera probablement le 28 novembre aux Assises de l'innovation.
Ah bien sûr,
c'est
on
obligé.
Fait partie du PUI, on y sera, bien sûr, plus que jamais.
Merci beaucoup Philippe, merci infiniment. Merci à chacun pour votre expérience et puis nous en avoir fait profiter. On vous souhaite le meilleur pour la poursuite de votre parcours. Merci à vous tous, auditrices, auditeurs, de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. Mardi, nouvelle émission avec des entrepreneurs. Je laisse aussi le suspense, je fais comme Vanessa. D'ici là, belle journée, bon week-end et puis prenez soin de vous. À très vite.